Bonjour. Aujourd'hui, on explore une idée qui peut sembler un peu folle au premier abord, non? Comment une simple pilule de sucre, enfin sans rien dedans, peut vraiment améliorer notre santé?
Oui, c'est tout le paradoxe fascinant de l'effet placebo. Le nom lui-même, placebo, ça veut dire je plairais en latin. On pourrait presque croire à une plaisanterie.
Une plaisanterie, oui. Mais l'effet, lui, il est bien réel, même si le traitement est factice. C'est ça qui est étonnant.
Absolument. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse assez poussée de singequantique.exe. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est vraiment l'effet placebo.
D'où il vient, comment ça marche, dans notre tête et notre corps.
Exactement. Comment la psychologie influence la biologie, où on peut l'utiliser, et puis aussi, important, où sont ses limites. Parce que, attention, ce n'est pas de la magie.
Non, bien sûr. Et ça repose sur des recherches scientifiques solides, c'est ça. Depuis quand on étudie ça sérieusement?
Disons que les bases neuroscientifiques se sont vraiment consolidées, sur les 40 dernières années, à peu près.
D'accord. Et notre source, elle précise bien qu'on se base sur la recherche actuelle, hein, avec ce que ça implique comme limites possibles, le choix des études, etc.
Tout à fait. L'objectif, c'est de donner une vision claire de ce qu'on sait aujourd'hui sur ce phénomène, eh bien, assez bluffant.
Alors, commençons par le commencement. D'où ça sort cette idée de donner un faux remède pour plaire aux patients?
Ben, l'idée n'est pas si récente. On en trouve des traces déjà au XVIIIe siècle, mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on voit des médecins comme Armand Trousseau,
Ah oui.
oui, qui utilisaient consciemment des pilules, tenez-vous bien, de mie de pain, de mie de
Pain, sérieusement.
oui, et son but, c'était de montrer qu'elles pouvaient être aussi efficaces que certains remèdes de l'époque. Il soupçonnait déjà que la croyance du patient jouait un rôle. L'homéopathie était aussi dans son viseur, d'ailleurs.
Intéressant. Et ça a pris de l'ampleur ensuite, j'imagine, notamment au XXe siècle. Il y a une histoire assez connue pendant la guerre, non?
Ah oui, vous pensez à Henry Beecher, l'anesthésiste américain pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
Oui, une anecdote fondatrice. Il manquait de morphine et il aurait injecté de l'eau salée, une simple solution saline, à des soldats blessés.
En leur disant quoi?
Que c'était un antidouleur.
Exactement.
En assurant que c'était puissant. Et contre toute attente, beaucoup de soldats ont dit se sentir soulagés. Vraiment.
Incroyable. Et ça a dû changer pas mal de choses dans le monde médical.
Énormément. Ça a forcé à admettre que l'esprit, les attentes, pouvaient réellement moduler une expérience aussi physique que la douleur.
Ce qui nous amène à une conséquence majeure pour la recherche aujourd'hui. Le placebo est devenu la référence, en quelque sorte.
C'est le point de comparaison obligé, oui. Pour qu'un nouveau médicament soit approuvé, il doit prouver qu'il fait significativement mieux qu'une pilule de sucre, en gros.
Il faut battre le rien, hein.
C'est un peu ça. Si l'efficacité n'est pas nettement supérieure, on peut se demander si l'effet observé n'est pas juste l'effet placebo.
Et c'est pour ça qu'on a développé cette méthode très stricte, l'essai clinique randomisé en double aveugle.
Précisément, ça date des années 50. C'est devenu le standard.
On rappelle vite fait, randomisé. Les patients sont tirés au sort pour recevoir soit le vrai médicament, soit le placebo.
Voilà. Et double aveugle, anonyme. Ni les patients, ni les médecins ou les soignants qui administrent le traitement ne savent qui prend quoi.
Pourquoi double aveugle?
Pour éliminer tous les biais possibles, les attentes du patient, bien sûr, mais aussi celles du médecin, qui pourraient influencer inconsciemment la façon dont il évalue les résultats ou même dont il interagit avec le patient.
D'accord, le placebo doit avoir exactement la même apparence, le même goût, etc. que le vrai médicament.
C'est crucial. C'est la base de ce qu'on appelle la médecine factuelle ou l'evidence-based medicine. On veut des preuves solides.
Et l'article mentionne un truc assez amusant. Ça marche aussi chez les animaux.
Oui, c'est intéressant. Dans les essais vétérinaires, on utilise aussi des groupes placebo et on observe des effets probablement liés à l'attention du maître, au rituel du soin. L'animal ressent peut-être moins de stress, ce qui influence son état.
Fascinant. Bon, alors venons-en au cœur du sujet. Comment ça marche? Comment un truc inerte peut déclencher de vrais effets biologiques? Ce n'est pas juste dans la tête, comme on dit parfois.
Ah non, surtout pas. C'est vraiment une erreur de dire ça. La science a bien identifié des mécanismes très concrets, qu'on appelle psychobiologiques.
Psychobiologiques, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils font le pont entre notre psyché, nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos attentes, et notre biologie, notre corps.
D'accord. Et quel est le mécanisme principal?
Le plus puissant et le mieux étudié, c'est sans doute ce qu'on appelle l'attente positive.
L'attente.
Oui, si vous croyez fermement qu'un traitement va vous faire du bien, votre cerveau anticipe ce soulagement. Et cette anticipation peut déclencher des réponses physiologiques qui vont dans ce sens.
L'article donne un exemple, un médecin qui parle avec beaucoup d'assurance, de conviction.
Exactement. Rien que ça, cette confiance qu'il transmet, ça peut déjà commencer à réduire l'anxiété, voire la douleur, avant même que vous ayez avalé la première pilule. La relation de confiance, le discours du soignant, c'est déjà une partie du traitement.
La parole peut être thérapeutique en somme.
Tout à fait. Et il y a un deuxième grand mécanisme.
Le conditionnement.
Le conditionnement. Comme Pavlov et ses chiens qui salivent. C'est exactement le même principe, oui. C'est un apprentissage par association. Notre corps apprend à lier certains signaux ou rituels, prendre une pilule d'une certaine couleur, recevoir une injection, l'odeur du cabinet médical, même à un effet biologique.
Donc, si j'ai pris un vrai médicament qui m'a soulagé et qu'après on me donne un placebo qui lui ressemble, mon corps pourrait...
réagir quand même. C'est tout à fait l'idée. Le corps a appris l'association. L'article cite une étude assez parlante sur l'hormone de croissance.
Ah oui ?
On donne d'abord un vrai stimulant de l'hormone de croissance, le taux augmente. Puis, plus tard, on donne un placebo dans les mêmes conditions. Eh bien, on observe aussi une augmentation de l'hormone. Le corps a été conditionné.
C'est fou ! Il continue de réagir par habitude, en quelque sorte.
Par réflexe conditionné, oui. Une autre étude sur des rats, cette fois, est aussi citée. On crée une petite inflammation, ça déclenche une réponse immunitaire, les globules blancs augmentent. Plus tard, on refait juste le geste, le pansement, mais sans l'inflammation.
Et un.
Et on voit quand même une hausse des globules blancs. Le système immunitaire est trompé par le contexte. Il anticipe et réagit. C'est une forme d'autosuggestion au niveau cellulaire, presque.
Attendez, ça veut dire que notre corps peut apprendre à se défendre ou à se réparer juste par association d'idées ou de rituels ?
C'est ce que ces travaux suggèrent fortement. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces mécanismes, l'attente et le conditionnement, ils ne sont pas juste psychologiques. Ils ont une base matérielle, une base neurochimique.
Ils activent des choses concrètes dans notre cerveau.
Exactement. Ils mobilisent ce que l'article appelle joliment notre pharmacie interne.
La pharmacie interne, c'est là qu'interviennent les molécules comme les endorphines. L'expérience de 1978 ?
Vous y êtes. L'expérience de John Levin en 1978. C'est une expérience clé. Il a montré qu'un placebo pouvait soulager la douleur. Mais que si on donnait en même temps de la naloxone...
La naloxone, c'est un produit qui bloque quoi déjà ?
Qui bloque spécifiquement les récepteurs des opioïdes dans le cerveau. Les récepteurs sur lesquels agissent la morphine, mais aussi nos propres antidouleurs naturelles, les endorphines.
Et donc, avec la naloxone ?
L'effet antidouleur du placebo disparaissait complètement.
Ah ! La preuve était faite. Le soulagement ressenti avec le placebo passait bien par la libération de ces fameuses endorphines par le cerveau lui-même.
Exactement. Ce n'était pas une illusion. C'était de la biochimie pure, déclenchée par l'esprit, par l'attente. Une démonstration magistrale.
Et depuis, on a trouvé d'autres médicaments internes impliqués ?
Oui, oui. On sait par exemple que chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, l'attente d'un traitement peut stimuler la libération de dopamine.
La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui leur manque cruellement.
C'est ça. Et cette libération de dopamine induite par le placebo peut améliorer temporairement leurs symptômes moteurs. C'est transitoire, hélas. Ça ne guérit pas la maladie, mais ça montre que le cerveau essaie d'imiter l'effet du médicament attendu.
Et pour la dépression, par exemple ?
On pense que l'effet placebo peut impliquer une meilleure régulation de la sérotonine, un autre neurotransmetteur clé. Le cerveau active ses propres voies chimiques pour répondre à l'attente.
Et on peut le voir, le mesurer, pas juste le ressenti du patient.
Absolument. On mesure des changements physiologiques objectifs. La tension artérielle qui baisse, le taux de cortisol, l'hormone du stress qui diminue, des modifications dans certains marqueurs de l'inflammation ou même dans l'activité de certaines zones du cerveau grâce à l'imagerie cérébrale.
Donc le lien est clair. Mental, cerveau, corps.
C'est ça. Le psychiatre Patrick Lemoine, qui est cité dans l'article, résume bien cette idée. La croyance, l'attente, déclenche une cascade de réactions chimiques dans le cerveau qui mène soit à l'amélioration, c'est le placebo, soit, attention...
À l'inverse.
Oui, à l'aggravation, c'est l'effet nocebo, on y reviendra.
D'accord, mais revenons au placebo. Quelle est sa portée réelle ? On entend souvent ce chiffre de 30%. 30% de l'effet d'un traitement, c'est le placebo. C'est vrai, ça ?
Alors, ce chiffre de 30%, il faut vraiment s'en méfier. C'est une espèce de moyenne très, très grossière qui a circulé, mais la réalité est beaucoup plus complexe et variable.
Ah bon ?
Oui. L'effet placebo peut être quasiment nul pour certaines affections et très important pour d'autres. Ce chiffre de 30%, s'il dit quelque chose, c'est surtout que les facteurs qu'on considérait comme immatériels, les attentes, la relation de confiance, le contexte du soin, eh bien, ils ont un poids thérapeutique bien réel, non négligeable.
Et il y a des domaines où ça marche mieux que d'autres, alors ? L'article parle de la douleur, de l'insomnie.
Oui. En général, plus un symptôme est subjectif et a une forte composante émotionnelle ou anxieuse, plus il est susceptible d'être influencé par le placebo. La douleur est l'exemple type, l'insomnie aussi.
L'article cite l'exemple de l'angine de poitrine.
Oui, des études anciennes, assez spectaculaires, rapportaient des taux de soulagement de la douleur allant jusqu'à 85% avec un placebo.
85%? Mais il y a une vraie lésion physique dans l'angine de poitrine, non?
Tout à fait. Mais la douleur ressentie est très fortement liée à l'anxiété, à la peur. Et c'est sur cette composante anxieuse que le placebo agit puissamment. À l'inverse, si on vous inflige une douleur artificielle en laboratoire, sans tout le stress associé...
Là, le placebo marche moins bien.
Beaucoup moins bien, apparemment. Le contexte psychologique, l'émotion, le stress, c'est vraiment clé.
Et pour les maladies qu'on dit psychosomatiques, eczéma, asthme, certains problèmes digestifs.
Oui, là aussi, comme le stress et les émotions jouent un rôle important dans ces affections, elles sont souvent très sensibles à l'effet placebo. Mais attention, soyons clairs sur les limites.
Non, absolument pas. Il faut être très prudent avec ça. Le placebo agit surtout sur les symptômes ressentis. La douleur, la fatigue, les nausées, l'anxiété. Il améliore le confort, le bien-être.
Il peut moduler certaines réponses du corps, comme le système immunitaire ou les hormones, on l'a dit.
Oui, il peut influencer la physiologie. Donc potentiellement, il peut soutenir les capacités naturelles de guérison du corps ou améliorer la tolérance à un traitement lourd. Mais il ne remplace jamais un traitement spécifique qui vise à éliminer la cause de la maladie quand ce traitement existe et est nécessaire.
C'est une nuance très importante. Et l'article parle aussi de l'importance du moral, du sentiment de contrôle.
Oui, ça rejoint d'autres recherches. Le fait de se sentir acteur, d'avoir un état d'esprit combatif, confiant, optimiste, ça peut avoir un impact positif. Des études sur les animaux montrent que le stress chronique affaiblit les défenses, tandis qu'un sentiment de contrôle peut les renforcer. Chez l'humain, c'est probablement similaire. Le moral n'est pas juste une idée en l'air.
Et donc, si le placebo, c'est le côté lumineux,
il y a son jumeau maléfique.
L'effet nocebo.
Oui, exactement. C'est l'inverse parfait.
C'est-à-dire ?
Ce sont les attentes négatives qui provoquent des effets indésirables, bien réels eux aussi. Le simple fait de lire la longue liste des effets secondaires sur la notice d'un médicament peut suffire à en déclencher certains.
Ah oui, ça arrive souvent ça.
Ou l'hypochondriaque qui a tellement peur d'avoir une maladie qu'il finit par en ressentir les symptômes. C'est aussi une manifestation du nocebo.
Notre esprit peut donc nous faire du bien ou nous rendre malade. C'est assez vertigineux quand on y pense.
C'est vraiment les deux faces d'une même pièce, le pouvoir immense de notre esprit sur notre corps.
Alors, une question qui me brûle les lèvres et que l'article aborde, est-ce qu'on peut utiliser ce pouvoir volontairement, consciemment, sans passer par la ruse de la pilule de sucre, un peu comme avec l'hypnose ou la méditation peut-être ?
C'est une excellente question et c'est un domaine de recherche très, très actif en ce moment. Pendant longtemps, on a cru que la tromperie était indispensable. Que le patient ne devait surtout pas savoir.
C'était le dogme.
Oui. Mais des études récentes sont en train de sérieusement bousculer cette idée. On parle maintenant de placebo ouvert. Open label placebo anglais.
Placebo ouvert. Ça veut dire qu'on dit carrément aux gens. Tenez, ceci est une pilule placebo. Elle ne contient rien d'actif, mais prenez-la quand même.
C'est exactement ça. Et le plus étonnant...
C'est que ça marche.
C'est que ça semble marcher, oui. Pas aussi bien qu'un placebo caché, peut-être, mais ça a un effet mesurable. L'étude pilote de 2010 sur le syndrome du côlon irritable est assez frappante.
Racontez.
Des patients informés qu'ils prenaient un placebo ont rapporté une amélioration significative de leurs symptômes par rapport à un groupe qui ne recevait aucun traitement. Et ils savaient que c'était un placebo.
Mais comment c'est possible? Si on sait que c'est bidon, l'attente devrait disparaître, non?
C'est ce qu'on pourrait croire. Mais apparemment non. Peut-être que le rituel de prendre quelque chose, l'attention portée à soi, la relation avec le médecin qui le prescrit honnêtement, tout ça joue encore un rôle. Et il y a une astuce.
Ah!
Des chercheurs ont montré que si on explique comment fonctionne l'effet placebo au patient, les mécanismes d'attente, de conditionnement, la pharmacie interne...
Le fait de comprendre renforce l'effet placebo, même si on sait que c'est un placebo.
Ça semble bien être le cas. Une étude française a comparé une crème placebo classique, présentée comme un vrai antidouleur. à la même crème, mais cette fois présentée honnêtement comme placebo. Sauf que ce deuxième groupe avait reçu une petite vidéo expliquant les mécanismes psychobiologiques de l'effet placebo.
Et le résultat ?
Le soulagement de la douleur était similaire dans les deux groupes. L'information, la compréhension semblent pouvoir activer les mêmes voies que la simple attente aveugle.
Mais c'est génial ça ! Ça ouvre des perspectives éthiques intéressantes, non ? Fini le mensonge nécessaire.
Potentiellement, oui. On pourrait imaginer utiliser le placebo ouvert de manière transparente et éthique pour certaines conditions.
Lesquelles, par exemple ?
Les douleurs chroniques, où l'on cherche à réduire la prise d'antalgiques puissants, certains troubles fonctionnels, comme le côlon irritable, peut-être même pour aider au sevrage de certains médicaments, en utilisant le conditionnement.
Et ça répondrait à une demande des patients aussi. Être plus acteurs de leur santé.
Tout à fait. Il y a une demande croissante pour des approches plus participatives, où la personne comprend ce qui se passe et utilise ses propres ressources internes. Le placebo ouvert, bien expliqué, pourrait s'inscrire là-dedans.
Ce qui nous ramène à cette idée centrale, on a tous en nous des capacités, des ressources pour influencer notre santé.
C'est le grand message, oui. Nous avons une capacité d'autorégulation, souvent sous-exploitée. Mais, et je le redis, prudence.
Oui, pas question de jeter les vrais médicaments aux orties.
Surtout pas. Il ne faut absolument pas tomber dans le piège de penser qu'on peut tout guérir par la pensée positive. Ce serait dangereux et irresponsable. Les traitements médicaux éprouvés restent indispensables quand ils sont nécessaires.
Bien sûr. L'idée, c'est plutôt que notre état d'esprit, la confiance qu'on a dans le traitement, dans le médecin, le fait d'y croire, ce n'est pas juste un petit plus, ça compte vraiment.
Ça participe activement à l'efficacité globale. L'effet placebo dont le montre, hein, cette dimension psychologique est un ingrédient thérapeutique à part entière qu'il faut prendre en compte.
Alors concrètement, sans remplacer un médecin, est-ce qu'on peut essayer de mobiliser ça soi-même pour des petits bobos ?
L'article suggère cette piste, oui. Mobiliser son soigneur intérieur face à un rhume, un petit coup de fatigue, pourquoi pas ? Utiliser la visualisation positive, la relaxation, adopter une attitude confiante dans ses capacités de récupération.
Ça ne mange pas de pain, comme on dit.
Exactement. Ça ne coûte rien et ça n'a pas d'effet secondaire connu. Si ça peut t'aider à atténuer les symptômes ou à se remettre plus vite, pourquoi s'en priver ? C'est une piste personnelle à explorer.
Pour finir de brosser le tableau, revenons un peu sur la biochimie. On a parlé des endorphines pour la douleur, de la dopamine pour Parkinson. Y a-t-il d'autres messagers chimiques importants dans cette pharmacie interne ?
Oui, le système est complexe et plusieurs voies sont impliquées. On sait par exemple que les endocannabinoïdes...
Les cannabinoïdes produits par notre corps.
C'est ça. Ils jouent aussi un rôle dans le soulagement de la douleur placebo et dans la réduction de l'anxiété, notamment pour les douleurs chroniques. C'est une autre voie d'analgésie interne.
Et l'ocytocine, l'hormone de la confiance.
Elle semble aussi jouer un rôle. Une bonne relation de confiance avec le soignant pourrait favoriser sa libération et ainsi renforcer l'effet placebo, en particulier l'analgésie.
Et pour le nocebo, le côté sombre, il y a un équivalent chimique aussi ?
On suspecte un système appelé CCK, cholécystokinine, de jouer un rôle inverse. Il favoriserait la transmission de la douleur et l'anxiété quand les attentes sont négatives. Ça montre bien la balance, la dualité des mécanismes.
Et le système immunitaire, on en a parlé avec les rats.
Oui, on voit des réponses immunitaires conditionnées. Ça peut moduler l'inflammation, par exemple. Ou être impliqué dans les nausées anticipées avant une chimiothérapie, même avant de recevoir le produit. Mais, encore une fois, ça ne va pas éradiquer la tumeur ou l'infection. Ça agit sur la réponse du corps.
Tout ça dessine vraiment un tableau incroyablement riche. Un dialogue permanent entre notre esprit et notre corps, avec des messagers chimiques bien réels.
Tout à fait. On est loin du « c'est juste psychologique ». C'est un phénomène psychobiologique profond qui met en jeu nos attentes, notre mémoire corporelle via le conditionnement et la capacité de notre cerveau à être un véritable chef d'orchestre chimique et physiologique.
Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est la reconnaissance incroyable du pouvoir de notre état mental, nos croyances, nos attentes, nos émotions sur notre état physique, notre bien-être.
Une connexion intime, puissante, dont on commence à peine, je pense, à comprendre tous les mécanismes et toute la portée.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être un peu vertigineuse. Si une simple attente, qu'elle soit induite par une pilule de sucre, par la parole d'un médecin, ou même par une information sur le placebo lui-même, peut programmer notre cerveau pour produire des effets biologiques concrets.
Mmh. Où voulez-vous en venir ?
Eh bien, quelles autres capacités cachées de notre esprit on pourrait apprendre à maîtriser pour influencer notre biologie ? au-delà du soulagement des symptômes, juste pour le bien-être ou peut-être pour d'autres choses encore. Jusqu'où cette connexion esprit-corps pourrait-elle nous mener si on l'explorait plus consciemment, plus délibérément ?
C'est une perspective fascinante, en effet. Ça ouvre un champ d'exploration immense sur, sur le potentiel humain. Un voyage qui, sans doute, ne fait que commencer.